La mort de 5 mars fut le dénouement d'un grand drame passionnel. Henri Defia, marquis de 5 mars, était un bel adolescent aux yeux caressants, d'une grâce merveilleuse en tout ce qu'il fallait. Quand les volontés d'une mère ambitieuse et d'un ministre aux vues compliquées se mirent d'accord pour faire cadeau de cette jolie fleur au roi, auquel il fallait toujours un joujou, selon l'expression de Richelieu. La victime résista longtemps avant de se laisser faire, près de 2 ans, car l'on savait par l'exemple des favoris précédents que les vieux enfants cassent aussi leurs joujoux. Et la faveur même de Louis XIII était devenue un épouvantail. 5 mars aimait le monde et le plaisir. Il était perpétuellement amoureux et il avait compté faire son chemin dans l'armée. L'idée d'aller s'enfermer à Saint-Germain avec ce valétudinaire grouillon, d'un ennui auquel personne ne résistait, lui était odieuse. À la longue, il céda. L'énergie n'étant pas son fait, le charmant 5 mars était un nerveux de peu de volonté, bien qu'il fût sujet à des accès de violence. En 1638, à 18 ans, on le voit maître de la garde-robe du roi, occupé à lui commander des habits que Louis XIII refusait avec humeur, les trouvant trop élégants. Le monarque parlait alors le moins possible au jeune Defia, qui lui déplaisait. La vie était vraiment lugubre à Saint-Germain. Louis XIII s'enfonçait, l'âme ulcérée dans la nuit, et le néant en face de l'astre resplendissant de son ministre. Depuis longtemps, Richelieu était comme un autre monarque.
« Dès l'année 1629, dit Ranke, qui s'est beaucoup servi, des relations des ambassadeurs étrangers, on représente la foule des solliciteurs et des gens empressés remplissant sa maison et les portes de ses appartements. S'il passe dans sa litière, on le salue de loin avec respect. L'un s'agenouille, l'autre présente un placé. Un troisième cherche à baiser son vêtement. Chacun s'estime heureux s'il a pu obtenir de lui un regard. C'est que toutes les affaires étaient déjà dans sa main. Il s'était fait revêtir des plus hautes charges que peut exercer un sujet.
Le temps et le succès le rendirent encore plus puissant et surtout plus redoutable. Il vivait à Rueil, dans une profonde retraite. Richelieu était peu abordable. Il fallait, pour arriver à lui, que les ambassadeurs étrangers eussent quelque chose d'essentiel à lui communiquer. Toutes les affaires d'État relevaient de lui. Il en était le centre. Le roi vint souvent de Saint-Germain assister au conseil. Si Richelieu se rendait lui-même chez le roi, il était environné d'une garde qui était à lui et qu'il soldait lui-même, car dans la maison même du roi, il ne voulait pas avoir à craindre ses ennemis. Un nombre de jeunes nobles des premières familles s'attachèrent à lui et lui faisaient le service de sa personne. Il avait une écurie parfaitement tenue, une maison plus brillante, une table mieux servie que celle du roi. À Paris, il menait un train royal, au milieu des trésors en tout genre, du palais cardinal, aujourd'hui le palais royal. Ce n'était pas le Louvre, habitation du roi, qui symbolisait le luxe et les arts de la France, aux yeux de la foule, et des pays étrangers. C'était la fructueuse demeure, appelée dans le langage courant l'hôtel de Richelieu. Il s'y trouvait des cabinets de travail et des boudoirs, des salles de bal et des collections d'objets d'art, une chapelle et 2 théâtres. La bibliothèque avait eu pour noyau la bibliothèque de La Rochelle, enlevée à la ville après le siège. La chapelle était l'une des principales curiosités de Paris. Tous les objets servant au culte étaient en or massif et enrichis de gros diamants. On remarquait, parmi ces précieux objets, 2 chandeliers d'église, entièrement en or, émaillés, enrichis de 2516 diamants. On comptait sur les burettes, pareillement d'or émaillé, 1262 diamants. La croix de 20 pouces 9, ligne de hauteur, portait un Christ en or massif, dont la couronne et la draperie étaient garnies de diamants. Les heures du cardinal de Richelieu faisaient partie de sa chapelle. La couverture, en maroquin, était entourée de lames d'or. Sur une de ses faces, on voyait un médaillon en or émaillé, offrant la figure de ce cardinal, qui, à l'instar des empereurs, tenait en main le globe du monde. Quatre anges venaient des quatre coins poser des couronnes de fleurs sur sa tête. Au-dessous, une inscription latine, Cadat, la grande galerie du palais, détruite sous Louis XIV, avait un plafond de Philippe de Champagne, représentant les glorieux exploits du cardinal. Une autre galerie, dite des hommes illustres, renfermait les portraits en pied de 25 grands Français, choisis par le cardinal. Au bas de chaque cadre, une rangée de tableaux teints représentait les principales actions du personnage, ainsi que l'avait fait Giotto pour saint François d'Assise, ou Fra Angelico pour saint Dominique. Richelieu s'était mis sans fausse honte parmi les 25 grands Français. L'entasseur de ses richesses et de ses monuments d'orgueil était arrivé au pouvoir avec 25 000 livres de rente. Sur la fin de sa vie, il jouissait d'un budget personnel de près de 3 millions de livres par an, qui correspondait à 18 millions de francs aujourd'hui. La liste civile d'un grand souverain. Richelieu n'était pas thésauriseur comme Mazarin. Il jetait l'argent à pleine main. Cependant que son maître faisait du filet dans un coin ou s'adonnait à d'autres plaisirs économiques.
Le roi, écrit Madame de Motteville, se vit réduite à la vie la plus mélancolique et la plus misérable du monde, sans suite, sans cours, sans pouvoir et par conséquent sans plaisir et sans honneur. Ainsi se sont passées quelques années de sa vie à Saint-Germain, où il vivait comme un particulier, et pendant que ses armées prenaient des villes et gagnaient des batailles, il s'amusait à prendre des oiseaux. Ce prince était malheureux de toute manière, car il n'aimait point la reine, jaloux de la grandeur de son ministre. Il commença de le haïr dès qu'il vit l'extrême autorité qu'il avait dans son royaume. Et ne pouvant être heureux sans lui ni avec lui, il ne put jamais l'être.
Le roi se trouvait dans ses humeurs les plus noires, quand il remarqua une figure nouvelle qui tournait sans cesse autour de lui. C'était 5 mars qui vaguait au devoir de sa charge. Louis XIII en fut d'abord agacé, dans son état d'esprit, tout l'agaçait. Un beau jour, il lui parle sans être forcé. Le lendemain, il lui parle davantage et tout d'un coup, il l'aima violemment, comme autrefois le jeune Baradas. La cour était habituée aux brusques passions du roi. Celle-ci étonna pourtant. Elle dépassait toutes les autres. C'était une affection exigeante et jalouse, extraordinairement orageuse, féconde en larmes et en querelles. Louis XIII excédait son favori de témoignages de tendresse. Il aurait voulu ne jamais le perdre de vue. Toute absence de 5 mars lui paraissait une infidélité, et il le faisait espionner pour savoir où il allait. Il ne pouvait s'en passer pour apprendre son nouveau métier de menuisier. Il en avait besoin pour l'accabler de dissertations sur les chiens ou sur le dressage des oiseaux. Il l'emmenait fouiller des renards dans les terriers et prendre des merles, par la neige avec des éperviers. Au milieu d'une douzaine de chasseurs, gens de peu et de fort méchante compagnie. Au retour, le roi soupait. Alla se coucher presque au sortir de table, et 5 mars, exaspéré d'ennui, ne songeait qu'à s'évader du château pour voir autre chose que cette longue figure jaune, entendre autre chose que des histoires de chasse. Il gagnait Paris à cheval, y passait la nuit à s'amuser, et se retrouvait de grand matin au lever du roi, éreinté, la mine défaite. Et les nerfs malades. Deux fois sur trois, Louis XIII savait tout par ses espions. Il faisait une scène. L'autre, énervé, répondait insolemment. On se brouillait avec des cris et des pleurs. Le favori avait une attaque de nerfs et le roi allait se plaindre de Monsieur le Grand au cardinal de Richelieu, confident en titre et chargé des raccommodements. Il lui écrivait le 27 novembre 1639.
« Vous verrez par le certificat que je vous envoie en quel état est le raccommodement que vous fîtes hier. Quand vous vous mêlez d'une affaire, elle ne peut pas mal aller. Je vous donne le bonjour. »
Le certificat était en ces termes.
« Nous, ci-dessous signés, certifions à qui il appartient d'être très content et satisfait l'un de l'autre, et de n'avoir jamais été en si parfaite intelligence que nous sommes à présent. En foi de quoi, nous avons signé le présent certificat, signé Louis et par mon commandement, et fiat de 5 mars. »
Ces replâtrages ne tenaient guère. Les mois qui suivirent le certificat ne furent qu'une longue tempête. Louis XIII était particulièrement jaloux d'une société de jeunes gens qu'on appelait Messieurs du Marais, parce qu'ils se réunissaient tous les soirs, place royale, chez Madame de Rohan. Il ne pouvait s'en taire. Le 5 janvier 1640, il réécrit au cardinal.
« Je suis bien marri de vous importuner sur les mauvaises humeurs de Monsieur le Grand. À son retour de Reuil, il m'a baillé le paquet que vous lui avez donné. Je l'ai ouvert et il est lu. Je lui ai dit, « Monsieur le cardinal me mande que vous lui avez témoigné avoir grande envie de me complaire en toute chose. Et cependant, vous ne le faites pas sur un chapitre de quoi je l'ai prié de vous parler, qui est sur votre paresse. Et il m'a répondu que vous lui en aviez parlé, mais que pour ce chapitre-là, il ne pouvait se changer et qu'il ne ferait pas mieux que ce qu'il avait fait. Ce discours m'a fâché. Je lui ai dit qu'un homme de sa condition devait songer à se rendre digne de commander les armées, comme il m'en avait témoigné le dessein, et que la paresse y était du tout contraire. Il m'a répondu brusquement qu'il n'avait jamais eu cette pensée et n'y avait pas prétendu. Je lui ai répondu que si, et n'ai pas voulu enfoncer ce discours. Vous savez bien ce qui en est. J'ai repris ensuite le discours sur la paresse, lui disant que ce vice rendait un homme incapable de toute bonne chose et qu'il n'était bon qu'à ceux du marais où il avait été nourri, qui étaient du tout à donner à leur plaisir, et que s'il voulait continuer cette vie, il fallait qu'il y retournât. Il m'a répondu arrogamment qu'il était tout prêt. Je lui ai répondu, si je n'étais plus sage que vous, je sais bien ce que j'aurais à répondre là-dessus. Ensuite de cela, je lui ai dit que, m'ayant les obligations qu'il m'a, il ne devait pas me parler de la façon. Il m'a répondu son discours ordinaire, qu'il n'avait que faire de mon bien, qu'il s'en passerait fort, et serait aussi content d'être 5 mars que Monsieur le Grand, et que pour changer de façon et de vivre, il ne le pouvait. Et ensuite est venu, toujours me picotant, jusque dans la cour du château, où je lui ai dit qu'étant en l'humeur où il était, il me ferait plaisir de ne point voir. Il m'a témoigné qu'il le ferait volontiers. Je ne l'ai pas vu depuis. Tout ce que dessus a été en la présence de Gordes. Signé Louis. En post-scriptum, j'ai montré à Gordes ce mémoire avant de vous l'envoyer, qui m'a dit n'avoir rien lu que de véritable.
5 mars, boudait. Le roi boudait. Ils étaient plusieurs jours sans se parler. Richelieu se dérangeait pour venir mettre la paix dans ce ménage d'amis. Et Louis XIII, tout à la joie, ne savait rien refuser à son favori, lequel en abusait de son mieux. Le marquis d'Effiat voulait être duc et pair, épouser une princesse, assister au conseil du roi, commander les armées, mais il trouvait alors le cardinal en travers de sa route. Richelieu le remettait rudement à sa place. Il le
gourmandait comme un valet, le traitant de petit insolent et le menaçant de lui mettre plus bas qu'il ne l'avait élevé.
Au cours d'une de ses semonces, il lui apprit qu'il l'avait mis auprès de Louis XIII pour être son espion et le somma de s'acquitter de ses fonctions. L'humiliation causée à 5 mars par une semblable révélation contribua plus que tout à en faire un conspirateur. Il en conçut une haine farouche contre le cardinal. Jamais le ministre n'avait paru plus inattaquable. Sa politique triomphait au-dedans et en dehors. Il faut laisser parler un étranger, non suspect de partialité, sur la situation que nous avions prise en Europe, sous son ministère.
Quelle différence entre l'état où Richelieu avait reçu le gouvernement du royaume et celui où son administration l'avait élevé. Avant lui, les Espagnols ont progrès sur toutes les frontières, non plus par des attaques impétueuses, mais par un envahissement mesuré et systématique, étaient sur le point d'isoler la France de toutes parts. Maintenant, ils étaient partout refoulés. Avant Richelieu, les forces unies de l'Empire, de la Ligue catholique et des armées espagnoles tenaient sous leur dépendance la rive gauche du Rhin et le fleuve lui-même, cette grande artère centrale de la vie européenne. Maintenant, les Français dominaient en Lorraine, en Alsace, dans la plus grande partie de la contrée du Rhin. Leurs armées combattaient au centre de l'Allemagne. Auparavant, la Méditerranée, les passages de l'Italie leur étaient à peu près fermés. Maintenant, ils occupaient un grand territoire dans la Haute-Italie, non pas à la suite d'une invasion passagère, mais après plusieurs grandes campagnes habilement conduites. Leur flotte était victorieuse dans la mer ligurienne et menaçait les portes de l'Espagne. Cette péninsule même, dont les forces unies avaient si longtemps fait la loi aux puissances européennes, était déchirée par la révolte de deux grandes provinces, dont une s'érigeait en royaume. Les avant-postes français n'étaient plus qu'à 60 lieues de Madrid. Richelieu avait assuré à la monarchie des Bourbons sa grande position dans le monde. L'âge de l'Espagne était passé. Celui de la France était venu.
Une fête célèbre marqua cet apogée de puissance et de gloire. Richelieu était l'homme des ambitions multiples. Il ne lui avait pas suffi de protéger les gens de lettres et de fonder l'Académie française, ni même de faire travailler Corneille et Rotrou sur ses canevas de sa façon. Le pédant qui se réveillait parfois en ce grand politique s'avisa de collaborer avec Desmarets, auteur d'un poème épique sur Clovis, à une tragédie-comédie appelée Miram, dont les premières représentations fut un événement parisien. Aucune des armées du roi n'avait été montée avec autant de sollicitude et de prodigalité. C'est pour Miram, auteur d'un poème épique sur Clovis, à une tragicomédie appelée Miram, dont la première représentation fut un événement parisien. Aucune des armées du roi n'avait été montée avec autant de sollicitude et de prodigalité. C'est pour Miram que lui fut bâti la grande salle de spectacle du palais cardinal, celle qui contenait 3000 spectateurs. Les trucs avaient été commandés en Italie par le sieur Mazzarini, ancien nonce du pape à Paris. Richelieu avait choisi lui-même les décors et les costumes. Il dirigea les répétitions et fit dresser sous ses yeux la liste des invitations. La pièce fut prête à passer dans les premiers jours de 1641. Il y eut d'abord une répétition générale pour la critique, représentée par des gens de lettres et des comédiens. La première eut lieu le 14 janvier, devant la cour de France, et le tout Paris. Les invités étaient placés par l'évêque de Chartres et un président au Parlement. La nouvelle salle plut beaucoup dans sa magnificence trop neuve. Quand le rideau se leva, peu s'en fallut qu'il n'y eût un cri d'admiration. La scène était bordée à droite et à gauche de palais splendides, entre lesquels se voyaient de forts délicieux jardins, ornés de grottes, de statues, de fontaines, de grands parterres en terrasses sur la mer, avec des agitations qui semblaient naturelles aux vagues de ce vaste élément, et de grandes flottes, dont l'une paraissait éloignée de deux lieues, qui passèrent toutes deux à la vue des spectateurs. Le même décor servait pour les cinq actes, sauf la toile du ciel qui changeait à chaque acte avec l'éclairage de façon à donner la sensation de la fuite des heures. La place était composée selon les formules alors en usage et n'était ni meilleure ni pire que beaucoup d'autres. On s'y battait, on s'y empoisonnait, on y ressuscitait, on s'y disputait une belle princesse. Et, tandis que ces inventions un peu grosses se déroulaient sur les planches, le maître du lieu faisait l'office de chef de claque et travaillait à enlever la salle. Tantôt il se levait et se retirait à moitié du corps hors de sa loge pour se montrer à l'assemblée. Tantôt il imposait silence pour faire entendre des endroits encore plus beaux. Quand le rideau tomba sur le dénouement, une toile représentant des nuages s'abaissa sur la scène et un pont doré vint rouler jusqu'au pied d'Anne d'Autriche. La reine trouva au bout une magnifique salle de bal. Elle y dansa un grand branle avec les princes et princesses. Après quoi, l'évêque de Chartres en habit court et le bâton à la main, comme aurait fait un maître d'hôtel, lui amena une superbe collation. Cet évoque serviable fut fait archevêque de Reims dans le courant de l'année. Il en fut de Mirante, comme de la vie de César, de Napoléon III, sur le Second Empire. La politique s'en mêla. L'opposition n'eut garde de laisser échapper une si belle occasion d'être désagréable à l'auteur. Elle soutint que la pièce ne valait rien et prétendit y avoir remarqué des allusions inconvenantes au vieux roman d'Anne d'Autriche avec Buckingham. D'autre part, le roi se déclara scandalisé de la composition mêlée de la salle. Ravi de pincer le cardinal, il lui en fit l'observation devant monsieur, qui prit la balle au bon et dit avoir aperçu en effet la petite Saint-Amour. Richelieu demeura interdit. Il n'y comprenait rien, étant sûr de ne pas avoir invité la petite Saint-Amour. Le coupable se trouva être l'abbé commis aux invitations, qui ne savait rien refuser aux dames. On l'expédia dans sa province, mais l'austère Louis XIII resta scandalisé, au grand chagrin de son ministre. Richelieu garda ainsi un souvenir mélangé d'une soirée qui avait dû dans ses pensées être la plus belle de sa vie. Nonobstant ses contrariétés, Miram avait fait mesurer aux foules la grandeur du Premier ministre. Monsieur Legrand savait à quoi s'en tenir, puisque toujours sur les talons du roi, il voyait mieux que personne, tout l'étendue de sa docilité. La conjuration 5 mars prit néanmoins figure dans les mois qui suivirent Miram. On en trouvera le détail dans toutes les histoires. Je dirai seulement qu'il ne faut pas chercher à expliquer raisonnablement une entreprise qui reposait sur des sentiments, la passion du roi pour son grand écuyer et la haine générale contre Richelieu. Au début, le roi Louis XIII, dans son aigreur envers l'un et sa tendresse pour l'autre, joua inconsciemment le rôle d'agent provocateur. Il excitait son cher ami à se moquer du cardinal. Cela soulageait le monarque de rire aux dépens de son tyran. 5 mars, y fut pris, tout le monde y fut pris. La sage Madame de Motteville écrit que cette conjuration a été une des plus grandes et en même temps des plus extraordinaires que nous puissions lire dans les histoires, car le roi en était tacitement le chef. Monsieur s'en était mis avec empressement et était accouru dire les noms des conjurés à la reine, désirant qu'elle eût part à ce dessein, qui était alors bien innocent, puisque le roi était de la partie. Richelieu commençait à ne plus être tranquille. Tout à coup, au mois de juillet 1642, Louis XIII étant malade à Narbonne et son ministre malade à Tarascon, Monsieur le Grand fut arrêté et livré au cardinal pour crime de haute trahison. Il le méritait. Il avait amené monsieur à traiter avec l'Espagne. Cependant, la vraie cause de sa mort, sinon de sa disgrâce, fut de ne pas avoir voulu comprendre qu'il ne devait plus faire fond sur le roi.
« Le roi ne l'aimait plus »,
dit un contemporain. Cela s'étant fait brusquement, en un instant, et le roi, comme s'éveillant d'un songe, se remémora tous les services de Richelieu, avec une telle vivacité qu'il se transporta à Tarascon pour demander pardon de l'avoir voulu perdre. Honteux de lui-même, ce prince, voulant faire amende honorable, quoique malade, se fit porter dans sa chambre auprès de lui,
où ils passèrent plusieurs heures ensemble,
chacun dans leur lit.
Là se fit une réconciliation en apparence tout entière, mais dans le cœur elle fut feinte. On ne saurait oublier de telles offenses, et celui qui les a faites doit savoir qu'elles ne sauraient s'effacer du souvenir de celui qui les a reçues.
Louis XIII fit l'impossible pour effacer. Il s'humilia et abandonna tout. En première ligne,
cet aimable criminel qu'il accablait de caresses deux jours auparavant.
Mais nous savons que ce sacrifice-là ne lui coûta point. Il y a du monstre dans Louis XIII, souverain dévoué à ses devoirs, jusqu'à l'égoïsme et au martyre. Il serait incompréhensible s'il n'avait pas été un malade. Monsieur se surpassa lui-même. Pendant cette crise, il fut trembleur et pleurnicheur, menteur et dénonciateur, avec une telle abjection que les éclats de sa honte remplirent la France et pénétrèrent dans les Tuileries, mettant mademoiselle au désespoir. Son père dérangeait ses idées théologiques sur les princes du sang. Comment expliquer qu'un être participant de la divinité pût être aussi parfaitement méprisable? La grande mademoiselle restait accablée devant l'énigme douloureuse que lui présentait son père.